Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, une émission dédiée à l'univers magique de Dominique Duvivier. Dominique Duvivier, je pense qu'on va mettre une petite parenthèse, mais on n'a pas fini d'en parler sur le voyage aux États-Unis. Donc j'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez vu quand même. Mais tout à l'heure en off, on parlait de quelque chose qui, en fait, dont on a assez peu parlé, en fait, même ensemble, tous les deux. C'était par rapport à votre enfance, enfin pas à votre enfance, mais à votre vie de pré-adulte, quoi. Donc 18, 25 ans, et peut-être un peu plus. Et vous me parliez du dénuement, en fait, dans lequel vous étiez plongé
Ah oui,
à l'époque.
on était quasiment dans la misère. Ouais.
Voilà. Et en fait, j'aimerais revenir un peu là-dessus, parce que je pense que ça peut expliquer des choses. Donc, c'était à Paris,
Oui,
ça, bien sûr,
oui,
avec Marie-Christine.
oui. Ça dépend. Si tu me dis 18 ans, je la connaissais pas encore.
Oui, à quel âge vous
Je
avez...
l'ai connue à 19.
D'accord, ok. Alors, vous avez quitté, il me semble, le cocon familial assez rapidement.
Eh ben, je l'ai quitté à 19.
À 19, dans la foulée
Voilà.
de la
C'est
rencontre
quand
avec
j'ai
elle.
rencontré Marie-Christine, on a pris un petit appartement qu'on a loué, on a vécu ensemble de l'âge de 19 ans jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, on s'est mariés. Ça va faire bientôt 50 ans qu'on est ensemble.
Alors du...
Mais ça fait déjà 50 ans puisque on s'est connus à 19 ans. Hein?
Et du coup, un mariage en toute simplicité, du coup, j'imagine, enfin...
Pas tant que ça, parce que du côté de Marie-Christine, il y avait un petit peu de moyens.
D'accord.
Donc on a quand même eu un mariage plutôt pas mal, tu vois, genre on s'est marié au cercle militaire
D'accord.
de Paris, qui est à la Madeleine. Hein? Mais c'est sûr que c'est pas du côté de mes parents que il y a mis de l'argent. Ça avait été tout un merdier d'ailleurs, parce que du côté de la famille de Marie-Christine, ils ont organisé tout ce que je viens de te dire. Et du côté de mes parents, mon père a été d'accord pour me payer un costume. Mais à l'époque, le costume, il coûte trop cher, et puis m'a quand même bien fait comprendre, tu vois, qu'il avait mis beaucoup d'argent dans le costume, alors qu'il avait dû mettre 50 euros, quoi, tu vois, dedans. C'est un truc misérable. Et évidemment, il n'était pas question qu'il mette un centime. Parce que mes parents, quand je dis mes parents, surtout mon père, parce que ma mère, c'était la bonté incarnée, l'amour incarné. Alors que mon père, c'est plutôt un sale con incarné, tu vois. Et c'est lui qui tenait les cordons de la bourse quand même. Hein. Et même si ma mère râlait sous cape, c'est lui qui prenait les décisions, et ces décisions, elles étaient quand même spéciales, souvent. Donc j'ai pas un super souvenir de mon père, même si j'ai un grand souvenir de mes parents, parce que grâce à eux, je pense que j'ai eu un équilibre familial énorme. C'est qu'ils s'adoraient, ils s'aimaient vraiment. Ils ont vécu ensemble 42 ans d'un amour absolu, tu vois. Bon, ce qui est moins bien, c'est quand ma mère est décédée, malheureusement, beaucoup trop tôt. Pendant un an ou deux, pour mon père, ça a été terrible de vivre sans elle. Mais après, il a rencontré quelqu'un. Oh, je ne reproche pas d'avoir rencontré quelqu'un, mais d'avoir renié sa femme, qui est ma mère, à ce point, pour refaire sa vie, ça s'est mal passé pour moi, tu
Ah
vois.
oui.
Mon côté sicilien, vu que ma mère était sicilienne, c'est un peu dur. Donc j'ai eu que des problèmes avec mon père, et quand j'étais môme, et après. Mais on était dans la disette, vraiment, parce que mes parents étaient très très pauvres. Comme je te le disais en off tout à l'heure, on vivait dans deux pièces cuisine, avec les toilettes sur le palier. Et ça, jusqu'à 19 ans, j'ai vécu comme ça, tu vois. Donc c'est sûr que quand je repense à mon enfant, je parle pas d'amour, puisque au niveau amour, ça m'a vraiment construit de voir ma mère et mon père être si amoureux l'un de l'autre, tu vois. Et ils ont été, entre guillemets, géniaux avec moi, hein. Ma mère évidemment, et mon père, parce que ma mère, c'est elle qui portait la culotte d'une certaine façon, mais pas les cordons de la bourse. Bon, bah, il fallait pas toucher à son fils, de quelque façon que ce soit, on parle pas au propre, mais même pas au figuré, tu vois.
D'accord.
La mère sicilienne, quoi, tu vois, la mère juive, mais de Sicile. C'est pareil, quoi, tu vois. De toute façon, en général, toutes les mères sont des mères siciliennes ou juives, dans le sens noble du mot, bien sûr. Donc, j'ai eu une enfance très choyée, très aimée, mais j'ai quand même souffert de cette disette. Et je te disais tout à l'heure en off que quand je repense à mes vies d'avant, je peux parler de plusieurs vies, parce que quand tu commences à avoir bientôt 70 ans, l'année prochaine, je vais avoir 70 ans, mais en même temps, je sens en moi que j'ai, allez, on va pas dire 30, mais j'ai 52, quoi, tu vois. Quand je me regarde dans la glace, je vois que j'ai pas 52, mais Dieu merci, faut que je me regarde dans la glace pour le savoir. C'est pas quand je marche, quand je vis, quand je vis ma vie. J'ai vraiment une cinquantaine d'années, tu vois. Mais mine de rien, j'ai quand même 70, pas loin. Et je vois toutes les vies que j'ai eues, j'en ai eu au moins trois, pour pas dire quatre. Et ça paraît dingue. Quand j'étais à l'école, j'étais quasiment un illettré. Donc, je viens de te dire comment j'allais aux toilettes, tu vois. Vers 25 ans, ça a changé. Vers 40 ans, ça a changé. Et à partir de 50, ça a encore plus changé. C'est fou, quoi. Tu vois. À tous les niveaux. Tu vois. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, je suis. J'aurais le prix Goncourt si j'écrivais un bouquin, mais bon, c'est sûr que j'ai appris beaucoup, alors que quand je suis sorti de l'école, j'étais vraiment un crétin, quoi.
Ben, alors je sais pas si je, enfin, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Bon, en tout cas, vous aviez déjà en vous quelque part l'envie d'apprendre, l'envie de changer, l'envie
Ah
de.
ben l'envie, oui, ça clair. L'envie de tout ce que tu dis, mais surtout de me sortir de cette condition. Je me suis juré, sans savoir ce que je serais capable de faire, de pas être comme mon père. Puis mon père, à l'entendre, c'était le président de la République, tu vois. Ça, c'est le côté le plus désagréable qui soit, pour un môme, surtout un môme comme moi. Parce que, à vie surtout, tout ce qui va pas, c'est parce que tatata, et c'est à cause de ci et ça, et si moi j'étais là, je ferais ci et je ferais ça. Bon, discussion de comptoir, quoi. Attention, mon père, il buvait pas, hein, mais c'est fou, quoi, tu vois. J'ai découvert, vers 16 ans, bah, que j'étais xénophobe, raciste, antisémite, parce que mon père m'avait inculqué ça. Donc ça fait partie des choses horribles pour moi. Tu vois, quand j'ai pris conscience de ça, c'est comme ça que je suis devenu juif pendant X années. Parce que quand j'ai compris ce que mon père m'avait mis dans la tête, dans moi, quoi, ben je me suis dit, je peux pas, pour réparer, je peux pas devenir noir. Bon, ben je vais devenir juif. Et j'ai été dans une bijouterie, j'ai acheté une Torah, je me suis mis une étoile de David, et jamais personne n'a pensé que je ne pouvais ne pas être juif, qui est déjà de l'antisémitisme quelque part. et je mangeais cachère, j'ai fait tout comme il faut. Et là, je te la fais court, parce que Marie-Christine a cru, elle s'est mariée avec moi, elle croyait que j'étais juif. Hein. J'ai jamais dit à personne que je ne l'étais pas. Donc à l'armée, j'ai été victime d'antisémitisme, machin, enfin bon, comme un juif, à mon avis, qui vit ce genre de saloperie, quoi. Mmh. Tu vois. Et puis un jour, j'ai raconté ce que je suis en train de te raconter à un de mes élèves, je ne sais plus pourquoi, parce que le mec me parlait sûrement de ce genre de choses, et je lui raconte l'histoire que je te raconte là. Et il dit, ah bah ça vraiment... Bon, moi, je sors du cours et je vais m'acheter une étoile de David. Parce que je veux vivre la chose comme vous. Et je dis, bah non, tiens, ce que tu me dis, c'est très bien. J'ai enlevé mon truc et je lui ai donné. Je dis, maintenant, c'est à toi. Et à partir de là, je n'ai plus été juif. Mais toi, c'est une histoire intéressante. Mais tout ça parce que, je te dis, j'ai vécu dans ma chair et en même temps, avec le temps... Je sais très bien que mon père, ce n'était pas une pourriture non plus. Mmh. Parce que malheureusement, c'était un peu la mode, tu vois, dans les années 40, 50, et avant, et un peu après. Les gens étaient... Le français était quand même un peu xénophobe, un peu raciste et un peu antisémite. Je ne crois pas que c'était que mon père, tu vois. Mais moi, je l'ai vécu, je l'ai pas en pleine poire quand j'avais 16 ans. Alors ça m'a révolutionné en même temps, ça m'a permis de me battre différemment, m'a permis, je te dis, de me cultiver, mais surtout pour pas être ce que j'étais destiné à être. Mon père m'a, quand j'ai fait mon armée, je suis sorti de l'armée, et il m'a tuyauté auprès d'un de ses copains pour que je sois gardien de nuit, quoi. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte, mais par un exemple tout bête, hein, en fait, c'est que le mec, il commence à me... Il y avait donc Marie-Christine, mon père et moi. Et le mec en question, qui voulait nous vendre que j'allais devenir gardien de nuit. Vu la formation que j'avais, c'était ce que j'allais faire, quoi, tu vois. Parce que j'avais juste fait des arts martiaux, donc ça pouvait servir. Et le mec commence à me parler de ce qui allait se passer, quoi, tu vois. Et à un moment donné, je lui dis, mais attendez, vous avez dit donc, on a un revolver, machin, mais si j'ai compris, attendez, mais le revolver, c'est pas un vrai? Ah ben non, parce qu'il faut un port d'armes. Et là, il commence à me raconter sa vie pleine de trous rapport à ça. Je dis, bon, enfin, attendez, je comprends pas bien. Vous allez me remettre une arme, mais qui n'est pas une vraie. Alors que si jamais il y a des voleurs qui viennent, eux, ils vont en avoir une vraie. Donc là, ça m'a fait sourire. Et le mec, il était sérieux dans son truc, tu vois. Mais moi, d'un seul coup, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je me suis levé, j'ai dit non, allez viens Marie-Christine, on s'en va, c'est bon. Et Dieu merci, tu vois, parce que là on ne serait pas en train de parler ensemble, hein, parce que c'était en train de se faire. Hein. Mais cette histoire de revolver, c'est pas que je voulais un vrai revolver, c'est simplement que je trouvais aberrant qu'on m'en donne un faux. Alors que s'il y avait un problème, les mecs en face, ils auraient un vrai. Et peut-être qu'ils devaient savoir en plus que moi j'aurais eu un faux. Non mais attends, ça va quoi, faut arrêter les conneries. Tu vois.
Oui, d'accord.
Donc c'est là où en sortant, je me suis engueulé avec mon père une fois de plus. Il est venu nous rejoindre, mais je t'en compte, je te présente. Je dis oui, bah, tu me présentes, mais je m'en fous. Parce que j'ai pas du tout envie de cette vie-là, non. Donc, je me suis retrouvé avec ma femme, Marie-Christine, puisque là, on est en 72-73, c'est après mon armée. N'oublions pas qu'on s'est marié en 70. Et bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas, puisque je ne sais rien faire, en fait. J'ai fait de la magie depuis l'âge de 8 ans, grâce à René Lys, que j'ai vu sous mes fenêtres, dont on a déjà parlé. Je fais de la magie, comme ça, en dilettante. Je vais à la boutique Maillette, quand je suis môme, et après avec Marie-Christine, quand je suis plus adulte, genre dès que j'ai 3 sous, je vais les dépenser à la boutique, hein. Mais j'en fais rien de tout ça. Et puis c'est là où le Ronellis me dit, il faut que je fasse quelque chose là, il est temps maintenant, parce que faut payer un loyer, c'est Marie-Christine qui le paye, moi je n'ai rien, on ne peut pas continuer comme ça, tu vois, c'est pas possible. Et Ronellis, pour la énième fois, me dit, mais viens à mon club au CFIJD, et puis j'y vais, et c'est là que je rencontre Gaëtan, et hop, tapapapapapapa, voilà. Nouvelle vie, nouvel axe, mais c'est très très mal parti au départ. Tu vois?
Et il y a une vraie volonté de se révolter, néanmoins,
Ah
déjà.
oui, d'abord c'est la vraie révolte. Et puis après, bah, il y a les hasards, les chances, une autre forme de disette, parce qu'à partir du moment où malheureusement la maman de Marie-Christine meurt très vite, donc on se retrouve à hériter de son appartement. Donc là, au lieu d'avoir cet appartement qu'on loue avec difficulté, parce que pour te donner une idée, tu vois, on gagne, c'est-à-dire elle gagne 600 francs par mois, et on a 400 francs de loyer.
D'accord.
Donc il nous reste 200 francs pour vivre. Elle a une voiture, je dis on a. Elle a une voiture, mais qui est une vieille voiture, c'est une Aronde, non, une, putain, c'est pas Aronde, une Floride. Je crois que c'est un vieux truc de chez Renault, tu vois. Mais une vieille guimbarde, quoi, tu vois, mais il n'empêche qu'il faut quand même payer l'assurance. Puis il a l'essence, même si l'essence à l'époque, elle coûte rien. Mais n'empêche que bon, c'est quand même des sous, on n'a pas les sous, tu vois. Je me rappelle, je passe devant une boutique, on habite rue du Faubourg Saint-Denis à l'époque, en face de la gare de l'Est, quasi, et je vois une boutique où il y a un Tépaz à vendre. Bah, j'ai mis 6 mois pour pouvoir l'acheter, quoi. Tu vois? On n'a pas de sous, hein, ça va pas. Mais la maman décède, et là on se retrouve dans un appartement. 17 avenue du docteur Arnold Netter, c'est là où. Donc là, d'un seul coup, on change de standing complètement, tu vois. Mais où je suis pas mécontent de moi, c'est pour faire court, cet appartement, il vaut 160 000 francs. Et 12 ans plus tard, je le revends 800 000 francs pour acheter ma première maison qui vaut 1 700 000 francs. Et quand je la revends, 25 ans plus tard, elle vaut 1 250 000 euros. Tu vois? Mais là, je te fais des ellipses. Hein? Mais tu vois, c'est dingue, quoi. Tu vois?
Et cette vie-là, donc pendant cette vie-là, vous faites de la magie,
Oui.
quand même.
Jour et nuit, je fais de la magie, et Marie-Christine, les premières années, ben ça ne dure pas 20 ans, hein, ça dure 1 ou 2 ans, ou 3 maximum. Mais elle pense vraiment qu'elle a épousé un loser, quoi, un feignant. Parce que elle me voit me marrer avec mes copains, alors qu'elle, elle marne, elle va travailler, elle se lève à 7 heures. Au début, on n'a pas Alexandra, mais enfin, assez vite, on l'a, hein, puisqu'on l'a en 73. Et ce que je viens de te dire, je suis en 72 de l'armée, tu vois le genre.
Ouais, tout à
Donc c'est
fait.
quand même dans
Ça,
les encolures, tout ça. Hein.
oui, ça s'enchaîne.
Donc, bah, elle s'occupe d'Alexandra, et puis elle va au bureau, et puis après elle rentre, puis elle fait des courses, et puis après elle me nourrit, ainsi qu'Alexandra, et notre chien, puisqu'on a aussi un chien, un cocker, qui s'appelle Napoléon. Et puis bah, j'ai inventé des tours, donc faut qu'on les consigne. Et puis bah, elle prend tout en sténo. Et puis après on renéotype, on achète une caisse Tettner pour faire les machins. Parce qu'entre-temps, je commence à faire mes premiers bouquins, les
Les
premières
2000.
revues, les cartes magiques des 2000, tout à fait. Tout ça, c'est nous qui les faisons de A à Z. Tu vois? Au début, c'est Merlin qui a publié les 3 premiers volumes. Mais à partir du quatrième, c'est nous qui produisons, c'est nous qui faisons, c'est nous qui crivons, c'est nous qui diffusons. Tu vois. Donc tout ça, les premières années, elle se demande dans quel guépier elle a mis, tout en m'adorant. Mais bon.
La preuve.
Mais évidemment, sans elle, encore une fois, tu ne serais pas en face de moi là aujourd'hui. Elle a cru à 100% en moi tout le temps. Mais n'empêche que c'était dur pour elle, parce qu'elle avait l'impression que je feignantais, quoi. Tu vois, alors qu'en fait, j'étais en train d'apprendre mon métier, d'inventer des tours, de dépenser l'argent qu'on n'avait pas. Pour acheter justement des cartes, de la colle, etc. Mais je peux imaginer que c'était dur pour elle, parce que même si j'ai eu des élèves assez vite, dès 72, j'ai commencé à avoir des élèves, et à partir de 73, énormément. Mais pour que ça devienne rentable, ouais. Parce que quand tu nourris, tu dois nourrir une famille. Même si tu donnes des cours et que ça se passe bien, tu as quand même l'impression que tu n'as pas grand-chose. Mmh. Hein. Donc voilà, ça a commencé à être un peu mieux vers 82. Donc tu vois, c'est 10 ans
de vache maigre.
Là, on avait un bel appartement, c'était 3 pièces, dans un bel immeuble cossu. Là, c'était super. Mmh. Mais heureusement que l'appartement était à nous, parce qu'on n'avait pas un rond pour pouvoir payer un loyer. Donc on mangeait quand même des pâtes, quoi. Tu vois.
À l'époque, vous perceviez le potentiel économique de votre...
J'ai toujours cru, moi.
Oui.
C'est là où je suis un fou, quoi. Mais je me rappelle une des premières fois où on a discuté, Marie-Christine et moi, on était sur un banc au bois de Vincennes, qui était à côté de nos quartiers, puisqu'on vivait un peu dans le... Avec mes parents, j'habitais 82 cours de Vincennes. Après, on habitait Arnold-Netter, qui est vraiment juste à côté du cours de Vincennes. Et le bois de Vincennes, c'est à une encolure de là. Et avec ma maman, je suis allé des milliers de fois au bois de Vincennes, à pied, et on revenait à pied, parce que l'autobus, c'était trop cher. Et le métro était mal desservi, là, pour aller là. Donc j'emmène sur un banc où j'allais souvent avec ma mère, sauf que là, c'était avec ma femme, et je me rappelle lui avoir dit, mais genre, en 70, 69, 70, 71, dans ces eaux-là, quoi, tu vois. C'est un peu nébuleux, la période exacte, mais c'est dans juste avant mon armée. Et je me rappelle lui avoir dit, en gros, tout ce qui s'est passé plus tard. Pour moi, c'était évident que ça allait péter, que j'allais... Alors, sans dire de quoi il s'agissait, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore. Ouais. Mais qu'il allait... on allait avoir tant, on allait faire ci, on allait faire ça. Et ça s'est presque passé comme je l'avais prévu, quoi, en amont. Mais évidemment, elle a pu le croire que quand c'est arrivé, parce qu'elle, ouais. C'est une famille, tu sais, paysanne, Savoie, elle m'a coûté, machin, oui, j'en cause toujours, mais bon, c'est dans le concret. Et je ne jette pas la pierre, c'est normal. Mais à partir de 80, 82, les choses ont commencé à augmenter, à rigoler vraiment.
C'est incroyable quand même, cette volonté de... Enfin, c'est au-delà de la volonté, en fait. C'est cette certitude que on peut aller de l'avant.
Oui. J'ai toujours cru que la ténacité allait payer. Mais ce qui est fou, c'est que là, je te parle des années avant même que je rencontre Marie-Christine... Après que j'ai commencé à la connaître et à être avec, toutes les vaches maigres, différentes et variées, 80, ça commence à aller mieux, mais enfin, on est aujourd'hui en 2019, et je viens quand même de révolutionner encore plein de choses dans les 6 derniers mois. Hein. J'ai jamais arrêté, en fait. Sauf que quand j'achète le double fond en 88, le miracle a lieu, c'est-à-dire que j'ai réussi avec un tour de 40 secondes d'obtenir le crédit que je voulais pour acheter les murs du double fond. Mais ça a été dur, parce que s'il n'y avait pas eu cette alchimie, cela dit, il a hypothéqué ma maison, hein, le mec. On avait déjà la fameuse maison dont je te parle, qu'on a achetée en 84. Oui, mais n'empêche que il voulait pas hypothéquer les murs avant d'avoir été séduit par le projet. D'accord ? Mais ça a été dur parce que t'es un artiste, et même si t'as une maison, bon, elle n'était pas finie de payer en plus, hein, à ce moment-là, c'était pas simple. Alors qu'aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est les 10 dernières années, on va dire, que dans les 10 dernières années, j'ai quand même acheté les murs de Mayette aussi. Hein. Et puis là, je viens de tout recasser encore mais pour créer la fameuse école qu'on commence. Bon, la différence, c'est que là, maintenant, ils se battent pour nous donner de l'argent, les banques. Ça a changé. C'est mieux. Mais ça aussi, c'est dingue. Parce qu'avant, moi, je me rappelle, je me battais, là, je reviens en arrière encore, pour avoir 200 francs de droit de découvert.
Ouais.
Mais c'était la merde. Tu vois ? Alors qu'aujourd'hui, je ne vais pas en parler, mais là, il n'y a plus genre de problème. Quoi, tu vois.
Oui, d'accord.
C'est, ils se battent pour me donner un peu plus. Mais si, allez-y. Mais non, j'ai pas besoin. Mais si. Tu vois, c'est eux qui sont demandeurs maintenant. Donc ça aussi, c'est dingue. Mais ça a été un travail de longue haleine, ininterrompu.
J'ai l'impression qu'il y a comme une volonté de combler ce qui a manqué. Mais c'est vrai aussi pour la culture, par exemple.
Ah oui.
Le fait que vous n'aviez pas... Comme vous dites, j'étais quasiment illettré, c'est...
Ah oui, c'est fort, mais c'est vrai. Alors, je me suis documenté, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté énormément. Parce que le hasard a fait que, quand tu deviens prof de magie comme moi... J'ai eu des centaines d'élèves, et souvent, les élèves que j'avais, c'était des médecins, des biologistes, enfin, des gens, entre guillemets, cultivés, tu vois, eux. Et ils absorbaient toutes les connaissances que j'avais à leur donner, qu'ils avaient envie de prendre au niveau de mes connaissances magiques. Mais moi, je n'hésitais pas à les questionner quand on était sur des sujets X, Y ou Z, sur leur propre métier, sur leur propre pensée, etc., etc. Tu vois ? Ce qui fait que je me suis énormément cultivé. Comme disait Jerry Lewis, je ne sais pas combien d'élèves, d'après vous, ont vraiment appris quelque chose de vous. Bah, il dit au moins un, moi. Et ouais, c'est un peu ça aussi. C'est que je sais pas, ben je pense quand même qu'un certain nombre d'élèves ont été contents de ce que je leur donnais, mais moi j'ai appris beaucoup en donnant des cours aussi, en les donnant au premier degré et en apprenant au second degré et au troisième degré. Je me suis beaucoup cultivé.
Je suis content d'avoir fait cette parenthèse en fait. J'ai trouvé ça
très bonne idée.
Très intéressant. Merci Dominique pour vous être dévoilé un peu plus sur ce thème-là. Je vous propose d'arrêter ce numéro maintenant et puis de se retrouver pour un prochain numéro dans quelques semaines.
Avec plaisir. Bonne les cacahuètes.
Très vite.